France Culture.
Les midis de culture. Marie Sorbier.
Il s'agira ce midi d'histoire de famille et des correspondances entre journalisme et littérature. Janet Malcolm, dans son fameux essai « Le journaliste et l'assassin », écrivait sous forme de sentence « Le journaliste, qui n'est ni trop bête, ni trop imbu de lui-même pour garder les choses en face, le sait bien. Ce qu'il fait est moralement indéfendable. Ce qui est en jeu dans cette morale-là, ce sont les liens entre le journalisme et son sujet. Comment être suffisamment proche pour comprendre et décrire, mais pas trop proche pour garder son libre arbitre et son esprit critique. » Raphaël Baquet, vous pratiquez cet art délicat de l'enquête et du portrait, que ce soit de nos politiques ou des grands créateurs. Et pour ce qui nous occupe aujourd'hui des grandes familles françaises, vous croquez à la manière d'un dessinateur les traits saillants de chacun, une façon démocratique de les présenter au grand public. Bonjour Raphaël Baquet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ce 31 décembre. Vous êtes journaliste pour le journal Le Monde, grand reporter depuis une quinzaine d'années. Et vous publiez en parallèle des livres qui sont des portraits des grands de ce monde. Alors en parallèle, je devrais plutôt dire de concert, tant vos livres sont des prolongements de vos articles. Et c'est cette excroissance qui m'intéresse d'explorer avec vous aujourd'hui. Comment est venue chez vous l'envie de déployer vos articles dans des livres ?
Mais souvent, on n'a jamais assez de place dans les journaux, donc c'est déjà la première raison, mais aussi parce que un livre donne une cohérence à une histoire, parfois à des histoires assemblées comme celle-ci sur les successions, puisque ce sont plusieurs familles. Donc, ça me paraît un prolongement assez naturel, en vérité.
Est-ce que c'est la même façon d'écrire ? Est-ce que c'est pour vous de la littérature, ces livres-là, ou est-ce que ça reste un recueil d'articles ?
Non, c'est pas de la littérature. J'aimerais, mais je fais bien la différence entre la littérature et la belle écriture journalistique, si vous voulez. On peut écrire bien journalistiquement parlant, et j'espère que c'est en tout cas c'est mon aspiration. Mais la littérature, c'est autre chose. D'abord, il s'y mêle aussi une part de fiction, et moi, je n'écris que sur la réalité. Et puis, il y a un style, des mots différents qui vont plus profond encore et qui visent à l'universel, mais le journalisme raconte la réalité.
Oui, déjà. Les liens sont assez poreux entre journalisme et littérature, on va en parler. Je citais Janet Malcolm en introduction, journaliste du New York Times, qui est un journal justement qui permet des formats d'articles très longs. Est-ce qu'il manque en France cet espace-là dans les médias ?
Déjà au Monde, on peut faire des articles très longs, hein, et on peut faire des séries aussi d'ailleurs, publiées chaque jour. Donc c'est quelque chose qu'on a développé, et je dois dire que moi-même j'avais un peu peur avec... On voit bien qu'aujourd'hui les gens lisent sur leur portable, par exemple, leur téléphone portable, je veux dire. Je pensais que ça allait tuer les longs articles, et c'est le contraire. Mmh. On s'aperçoit, puisque maintenant on a la capacité de mesurer jusqu'à quel point les gens lisent un article... On s'aperçoit qu'au contraire, ça a plutôt développé ça. Et nous-mêmes, nous avons développé justement les longs articles que les gens peuvent lire sur leur petit écran de téléphone portable, mais avec le même confort.
Mais on n'écrit pas de la même façon quand on écrit un article, disons, court, et ces longues enquêtes ou ces longs articles que vous écrivez. C'est un autre exercice pour vous ?
Oui, c'est vrai, mais j'aime beaucoup écrire court aussi. Écrire une petite scène de façon courte, c'est aussi un exercice formidable, hein, parce qu'il faut avoir... plus d'impact, c'est pas tout à fait la même chose, mais les deux sont formidables et diversifier les genres, c'est ça qui est la chose plaisante dans le journalisme.
Alors vous avez écrit sur Jacques Chirac, sur Ségolène Royal, sur Richard Descoings, le directeur de Sciences Po, mort dans des conditions, disons, étranges, sur Karl Lagerfeld aussi. Comment choisissez-vous vos sujets ? Qu'est-ce qui motive votre désir de passer un temps long à scruter et à comprendre une personnalité publique ?
C'est vrai que j'aime assez ce que produit le pouvoir sur les hommes et les femmes. Donc c'est vrai que cette espèce de concentrer, de précipiter des passions humaines qu'on voit dans les milieux du pouvoir, c'est ça qui m'intéresse et c'est ce que j'ai exploré prioritairement. Mais je pourrais écrire sur l'amour, mais le pouvoir, c'est autre chose. Et effectivement, c'est la ligne directrice entre tous les personnages qui ont été ceux de mes livres et de mes articles, souvent.
Mais par exemple, quel est le lien de votre désir entre Jacques Chirac et Ségolène Royal ? Ce sont deux personnes de pouvoir, mais à part ça, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire sur eux en particulier ?
Bah ça, le pouvoir a heurté leur personnalité profonde, l'un comme l'autre, même s'ils ne se ressemblent pas. Mais effectivement, chez Jacques Chirac, c'était un homme qui n'avait pas confiance en lui et ne s'aimait pas vraiment, et qui pourtant avait cette folie de vouloir être le président, donc celui que tout le monde aime, l'élu. Et chez Ségolène Royal, il y avait le désir d'être la première femme, d'être une forme de modèle, d'être une forme de discours à elle toute seule. Donc c'était intéressant, une forme de mégalomanie et avec en même temps la faiblesse des êtres humains.
On parlait de réel, vous disiez que vous écrivez uniquement sur la réalité, et quand vous décrivez ces personnages-là, on voit des personnages de fiction, il y a quand même aussi ce rapport-là, ce sont des personnages un peu romanesques.
Oui, ils sont romanesques, mais la réalité est très romanesque, justement. Moi, je trouve la réalité souvent plus forte encore que les fictions, enfin, sauf chez les grands écrivains, bien sûr, mais la réalité est inépuisable.
Alors, contrairement à une romancière, justement, vous êtes, vous, dépendante du réel pour écrire. On se souvient de la souffrance de Truman Capote, par exemple, qui attendait désespérément la pendaison des deux criminels pour pouvoir finir son livre de sang-froid, hein, livre qui va marquer des générations et de lecteurs et de journalistes. Vous n'êtes pas maître des horloges. Est-ce que c'est un aléatoire que vous avez appris à manier ?
Oui, on regarde ce qui se passe sous nos yeux. Donc, parfois, la réalité, une histoire n'est pas terminée. Et on ne peut pas y mettre le point final. Donc, c'est parfois frustrant. Et évidemment, souvent, quand on fait un livre, moi, j'aime bien prendre une histoire qui est terminée. C'était le cas de Richard Descoings. Je me suis intéressée à lui une fois qu'il était mort. Et là, remonter le fil de sa vie et comprendre le bouleversement et ce qu'il avait représenté dans l'école des élites et l'école du pouvoir, encore une fois, ça, c'était passionnant. Et c'est souvent le cas, mais je n'attends pas que les personnages soient morts pour écrire sur eux, mais j'attends que leur histoire soit close, en tout cas.
Alors, j'évoquais Truman Capote, que l'on appelle communément le père de la non-fiction, mais avant lui, il y avait un autre journaliste, également du New York Times, il s'appelait Guy Talès, et il s'est fait notamment connaître pour un article devenu un livre qui s'appelle Sinatra a un rhume, c'est un beau titre.
Formidable livre.
Et Guy Talès, lui, se voit attribuer la paternité du nouveau journalisme au début des années 60.
What I wanted to do, what I aspired to be, even when I was 25.
Ce que je voulais faire, ce que j'aspirais à être, même quand j'avais 25 ou 30 ans, c'était d'écrire des nouvelles. Ou d'écrire un livre qui paraissait avoir été écrit comme un roman, de bout en bout. Mais sans changer les noms, en apprenant à connaître ces personnages, si bien que je n'avais pas à inventer de personnages. Je pouvais utiliser les noms réels, les situations réelles que j'obtenais, en apprenant à connaître les personnages, en traînant si longtemps, en faisant si confortablement partie de l'ambiance, de la personnalité et des attentes d'une personne, que je pouvais capturer tout ça, le coucher sur papier et être certain que j'avais écrit une vraie représentation des gens sur lesquels j'écrivais. Ça peut être appelé nouveau journalisme, mais en réalité, ce n'était pas du nouveau journalisme. Ce n'était pas du journalisme tout court, c'était de la narration. Et la seule chose qui la rendait différente de la narration traditionnelle, qui est le terrain des écrivains de fiction, c'est que ce n'était pas de la fiction. Mais ça prend beaucoup de temps parce que, pour écrire en connaissance de cause à propos des gens, vous devez y passer beaucoup de temps. Et vous devez y passer tellement de temps que parfois vous avez l'impression d'avoir perdu le sens d'être écrivain parce que vous ne publiez pas. Si vous passez tant de temps sur la recherche, ça peut être 3, 4, 5, 6 ans, durant lesquels vous n'essayez même pas d'écrire parce que vous êtes en train d'apprendre à connaître vos personnages, vous vous perdez dans les méandres de la quête littéraire. Et puis vous devez vous dire, je n'appartiens pas à ce monde-là, je suis complètement hors des radars de la célébrité.
I'm not out there. I'm off the radar screen in terms of being known.
Il dit beaucoup de choses, Guy Talès, dans cet extrait de 2012. Notamment, il a cette expression « faire partie de l'ambiance ». Est-ce que c'est aussi un de vos traits de caractère ? C'est-à-dire, quand vous arrivez, quand vous enquêtez, quand vous vous approchez de votre sujet, est-ce que vous devez faire partie de l'ambiance pour capter tout ce qui se passe ?
En tout cas, il faut se rendre le plus discret possible, mais vos interlocuteurs oublient rarement qui vous êtes quand même. Il faut bien le voir. Et en plus, moi, j'arrive avec l'étiquette aussi du monde. Donc, c'est à la fois un bouclier et parfois ça peut gêner. Mais en tout cas, ce que dit Guy Talès, qui a initié le journalisme que j'essaie de pratiquer, c'est-à-dire le journalisme de récit, hein, écrire comme un roman, mais avec la réalité, quelque chose où tout est vrai. Ça, évidemment, ça demande du temps et il a raison, et il faut plonger dedans et il faut considérer la réalité comme si c'était une fiction. C'est-à-dire qu'on emploie d'ailleurs le même vocabulaire. On parle de personnages secondaires, de scènes et de chutes. Donc vraiment, c'est tout à fait les mêmes mots que pour la fiction, mais il s'agit de la réalité.
On a évoqué Janet Malcolm, Truman Capote, là maintenant Guy Talley, ce sont tous des journalistes américains dits de non-fiction, si on fait une grande parenthèse comme ça, une grande enveloppe. Est-ce que ce sont des journalistes que vous avez lus? Est-ce que ce sont des inspirations pour vous, tous ces gens-là?
Ah, bien sûr, bah, bien sûr. Ils ont vraiment introduit quelque chose dans le journalisme qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'il y a... La France avait introduit les feuilletons de fiction dans les journaux. Donc, au XIXe siècle, évidemment, tous les grands écrivains écrivent des feuilletons dans les journaux.
Les journalistes étaient écrivains, en fait.
Voilà, les journalistes étaient écrivains, mais c'était des fictions. Ce qu'ont fait les Américains, effectivement, c'est d'écrire comme de la fiction, mais des choses réelles. Et ça, ça a gagné la France très vite, d'ailleurs. Enfin, d'ailleurs, tout le journalisme contemporain. Et c'est une vraie révolution. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est ce que moi j'aime pratiquer et c'est ce que je peux pratiquer. Tous les journaux n'offrent pas cette liberté non plus.
Que ce soit dans vos enquêtes du Monde ou dans les livres qui suivent, vous co-signez souvent. Alors ici, dans ce livre-là, Succession avec Vanessa Schneider, souvent aussi avec Ariane Chemin. Qu'est-ce que ça apporte de signer à plusieurs mains?
D'abord, on décuple notre force d'investigation. C'est aussi une façon de confronter ses idées, son style... son analyse, son sens psychologique, Vanessa Schneider ou Ariane Chemin sont des femmes avec qui sont complémentaires. Enfin, nous sommes complémentaires. Donc, elles sont différentes de moi et en même temps, on a un fond commun qui fait qu'on écrit avec facilité l'une et l'autre, les unes et les autres, toutes les trois, mais en même temps, tout en étant très différentes.
Mais le passage à l'écriture, il est solitaire. Vous écrivez chacune une partie, les autres lisent. Comment très concrètement ça se passe, le partage?
Alors, ça dépend beaucoup. On peut écrire une trame chacune et l'autre serait réécrit. On peut parfois, et c'est le cas avec Ariane Chemin, on peut parfois écrire le début d'une phrase et l'autre la termine. Donc c'est vraiment, mais là c'est un long travail en commun. Mais à vrai dire, on n'a pas de style. Il n'y a pas de style très différent entre nous. On a la même philosophie, donc même si chacune a sa façon d'écrire, bien sûr, mais il y a pas, c'est pas très très différent. Donc et puis on n'a pas de vanité non plus. On n'a pas de peur d'être réécrit par l'autre. On a confiance l'une dans l'autre.
Alors justement, ce style, on va l'écouter. C'est Oriane Delacroix qui va nous lire un petit extrait de l'introduction de votre livre.
Hériter, c'est recevoir. Le plus souvent considéré comme une chance, ce peut être un fardeau. Personne ne reprochera jamais à ses parents d'avoir perçu d'eux le fruit d'une vie de travail, un appartement ou une maison de campagne, à condition qu'ils puissent en faire ce que bon lui semble, y compris liquider tous les souvenirs qui s'y attachent. La chronique mondaine se délecte de ceux qui, chez les puissants, dilapident la fortune de leurs aïeux. Les héritiers suscitent un curieux mélange d'envie et de colère. Leur aisance est jugée imméritée, leur gabegie indécente. Certains souhaiteraient qu'ils partagent un tant soit peu leur magot, même si, en France, il n'a jamais été populaire de taxer lourdement les héritages. Transmettre, en revanche, est sans doute la chose la plus difficile qui soit. Car il ne s'agit pas uniquement de biens matériels, mais de valeurs morales, de culture, de sentiments. Le processus de transmission des entreprises est, à cet égard, particulièrement fascinant. Si la loi et la fiscalité permettent aux plus riches de transmettre leurs biens à leurs enfants dans les meilleures conditions possibles, organiser le passage de relais d'une gouvernance est beaucoup plus périlleux. C'est là, en effet, que se niche le pouvoir. Là aussi qu'on évalue l'équilibre d'une famille, l'intelligence d'un patriarche et la compétence de ses héritiers. Là que se mesurent de la façon la plus implacable les ravages de l'absence d'amour, les rivalités et les haines au sein d'un clan. Pour recevoir un héritage qui ne s'évalue pas seulement en biens et en millions, mais aussi en emploi, en produits, en marques et en images, il faut y avoir été préparé. Et c'est la première leçon éclatante qui ressort de l'enquête sur les familles dont vous allez découvrir l'histoire. Pour que la suite se passe sans accroc, il est indispensable que le patriarche, car il s'agit le plus souvent d'un homme, question d'époque sans doute, soit prêt à initier ses enfants au fonctionnement de l'entreprise qu'il dirige encore et que, parfois, il a lui-même créée. Il doit consentir à leur en dévoiler tous les ressorts, la genèse et les secrets, même les plus inavouables. Plus difficile encore, le patron, qui est aussi un père, doit accepter de voir sa progéniture s'émanciper et peut-être faire mieux, ou en tout cas, différemment.
Merci Auriane Delacroix pour cette lecture. Pour ce tome 2 de Succession sous-titré « Secrets de famille », vous poursuivez ce qui a fait recette dans le premier opus, Raphaël Baquet, à savoir mettre au jour les mécanismes à l'œuvre dans les grandes familles françaises. Alors je dis « grande » ici au sens de pouvoir économique. Et vous vous attardez plus particulièrement sur le nœud du problème, à savoir comment transmettre l'héritage et surtout à qui. Alors ce qui est commun aux 7 familles que vous décrivez, c'est qu'en fait ce n'est jamais simple.
Non, c'est même très difficile. On ne l'imagine pas parce que on pense toujours que, d'une certaine façon, quand on est riche, tout est facilité. Mais c'est pas du tout le cas, surtout quand on transmet une entreprise, car on transmet des emplois aussi. Et ce qu'on a créé, créé et fait fructifier. Donc là, c'est difficile car s'y mêle beaucoup de sentiments. À vrai dire, ce qui nous a frappé, c'est que c'était essentiellement une affaire affective. Une affaire de jalousie et d'amour, de rivalité dans les fratries, d'incapacité à transmettre la valeur du travail lorsqu'on est immensément fortuné. Et ça, c'est là que c'est intéressant.
Ce qui est troublant, c'est que quel que soit le parti pris de départ, c'est-à-dire il y a ceux qui le préparent, ceux qui ne le préparent pas, ceux qui ont choisi leur héritier, les autres non. En fait, finalement, quelle que soit la situation de départ, ça finit quand même pas très bien.
C'est assez rare que ça se termine bien. Bon, enfin, quand même, si, il y a des familles qui réussissent à transmettre.
Qui s'en sortent mieux que d'autres, oui.
Voilà, ça peut se terminer bien pour l'entreprise. Ça se termine rarement bien pour la famille. Parce que, effectivement, d'abord, celui qui a été choisi pour hériter de la direction, du pouvoir. Encore une fois, ce n'est pas l'argent qui nous intéresse, puisque l'argent, c'est réglé par la loi en France. Vous ne pouvez pas déshériter un enfant au bénéfice d'un autre. Donc, c'est assez clair, et heureusement d'ailleurs. En France, les choses sont assez claires. Mais en revanche, choisir parmi vos enfants celui qui va diriger à votre place, qui va vous succéder, ça c'est très difficile. Car être l'élu, c'est un poids, mais ne pas l'être, c'est une souffrance.
Une des familles que l'on retrouve dans votre livre, ce sont les Dassault, ces constructeurs aéronautiques, entre autres, entreprise fondée en 1929 par Marcel, puis reprise par son fils Serge. Vous vous êtes intéressé à la troisième génération, mais avant d'en parler, je vous propose de les écouter. Alors voici Laurent et Olivier, c'est le jour de la mort de leur père Serge en 2018.
Les Dassault, c'est une tradition. On va naître, mes frères, ma sœur et moi, ce matin. Le nom Dassault, c'est formidable à porter parce que c'est un devoir de mémoire, un devoir de transmission et une récompense. Et je pense que la mission sera plus facile à quatre que tout seul.
Il n'y a aucune rivalité entre nous, il n'y en aura pas. Et c'est cela l'essentiel, même si évidemment, je suis maintenant l'aîné. Vous savez, on me disait souvent, on m'appelait Monsieur Dassault. Lorsque j'étais déjà tout gamin, je disais non, Monsieur Dassault, il n'y en a qu'un, c'est mon grand-père. Et puis après, aujourd'hui, Monsieur Dassault, il n'y en avait qu'un, c'était mon père. Aujourd'hui, il y a plusieurs Monsieur Dassault. Le rôle que je souhaite jouer, c'est peut-être le porte-parole du groupe, s'ils en sont d'accord.
Alors, c'est très drôle d'écouter ce passage quand on a
lu... Il ment avec talent.
Voilà, exactement. Quand on a lu votre livre, Raphaël Baquet, il y a cette expression incroyable, être né le jour de la mort de son père. Elle revient plusieurs fois, d'ailleurs, dans votre livre. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait?
C'est vrai que là, à ce moment-là, ils espèrent encore pouvoir hériter de la direction. En tout cas, on entend Olivier qui dit « Je suis l'aîné, c'est moi qui vais pouvoir représenter mes frères et sœurs ». En réalité, leur père, Serge, avait déjà tout arrangé pour que justement, il ne dirige pas. Et donc, il avait mis en place des directeurs généraux, d'ailleurs pour le plus grand bien du groupe. Ils ont très très bien dirigé le groupe, mais il a retiré le pouvoir à ses enfants.
Il y a un autre adage que vous citez souvent dans cet ouvrage. La première génération crée, la seconde gère et la troisième tue. On entend bien à la fois l'espoir de transmettre et la crainte de perte. Est-ce que c'est cette tension-là que vous avez essayé de dépeindre dans chacune des familles ?
Oui, encore que ça dépend vraiment des familles, parce que il y a des familles qui reproduisent un schéma de désamour, et c'est le cas des Dassault justement, parce que Marcel Dassault est un très grand ingénieur, hein. Il a inventé au moment de la guerre de 14 un système d'hélices, puis après après la Seconde Guerre mondiale, il a été déporté d'abord, il a vécu les camps et la dureté terrible des camps, et il est aussi un homme extrêmement résilient, et il monte ce groupe magnifique, hein, qui va faire des avions et bientôt des avions supersoniques. Mais il méprise son fils. D'abord, il a deux enfants. Il en a un qui est autiste, qui donc est handicapé dans sa vie, et un autre qui est polytechnicien, un Serge. Et en fait, ce n'est pas le polytechnicien qu'il aime. Et c'est terrible parce que il n'a pas cessé de mépriser son fils, de le rabaisser plus bas que terre. Il l'appelle monsieur en lui écrivant des lettres. Il ne cesse de dire le plus grand mal de cet homme qui est lui aussi un très grand ingénieur. Hein. Et c'est vraiment très très dur au point que Serge ne va prendre la succession qu'à la mort de son père, de Marcel. Il a déjà plus de 60 ans et il a déjà créer des choses tout à fait incroyables. Mais il va reproduire cette éducation sans amour sur ses propres enfants. Et lui aussi, il a un mépris parfait pour ses quatre enfants, et il va s'arranger pour qu'ils ne lui succèdent pas. C'est terrible, ça, d'être incapable de voir en ses enfants ceux qui vont pouvoir reproduire et peut-être vous dépasser. Parce qu'évidemment, transmettre, c'est aussi admettre qu'on va mourir et qu'on peut peut-être être dépassé par sa progéniture.
En vous écoutant, je me disais qu'il était quand même dur d'échapper à Shakespeare. Hein. Les fils veulent tuer leur père, vivent mal avec leurs fantômes. Il y a ceux qui refusent la bataille et partent en exil. Les troisièmes générations qui vengent les secondes. Il y a quand même des motifs anthropologiques récurrents chez les puissants. Est-ce que quand vous vous êtes aperçu de cette répétition-là, vous avez finalement cherché à la retrouver dans chacune des familles? Est-ce que ça a été un fil pour ces entretiens?
Bien sûr que Shakespeare est un bon guide. Et d'ailleurs, souvent, ces familles elles-mêmes ont lu. Donc, elles savent bien tout cela, mais ça ne les empêche pas de tomber dans tous les travers. D'abord, toutes les familles ne reproduisent pas le même schéma. Il y a aussi des familles dans lesquelles les enfants tuent les pères. Hein, donc, c'est le cas dans le groupe Barrière, par exemple, hein, les casinos et les grands hôtels, dont le fils Alexandre a écarté son père et écarté assez brutalement, hein, au point que il ne peut plus, Dominique de Seigne ne peut plus aller, alors il a plus de 70 ans, il est septuagénaire, mais enfin il ne peut plus remettre le Grand Prix de Deauville, festival de cinéma comme il le faisait auparavant. Il a été écarté d'une façon assez brusque. Les Vertemeur aussi, les héritiers de Chanel, hein, Gérard et Alain ont mis sous tutelle leur père. Probablement à juste titre pour le bien de l'entreprise, mais c'est aussi une décision extrêmement difficile et ils l'ont fait avec leur mère. Donc ça peut parfois être très difficile. Il y a des enfants qu'on préfère à d'autres. Il y a des enfants qu'on éduque pour vous succéder et puis finalement on n'arrive pas à leur donner le pouvoir. C'est le cas des Saadé. Hein. Jacques Saadé a élevé son fils Rodolphe pour qu'il lui succède selon le droit d'aînesse et le droit aussi des garçons, hein, parce qu'il n'était pas question que la fille succède. Mais au moment de lui passer la main, il n'y arrivait pas. Et il a fallu que son fils le ménage jusqu'au bout alors qu'il était vieillissant, atteint de la maladie d'Alzheimer. Il faisait un double conseil d'administration. Un conseil d'administration pour son père, pour ménager les apparences, et le vrai conseil d'administration où se prenaient les décisions. Donc, dans chaque famille, ça peut être très, très difficile.
À quel endroit on entend, quand vous racontez toutes ces histoires-là, vos textes, ils sont truffés d'anecdotes et de petites phrases, à quel endroit vous placez-vous la limite entre la vie personnelle que l'on ne doit pas révéler et le devoir d'informer?
D'abord, elle est étroitement mêlée. La vie personnelle, là, dans ces cas-là, la vie personnelle est totalement mêlée à la vie professionnelle, puisque c'est la famille, justement, qui dirige. Donc, il n'y a pas de différence, surtout dans ces affaires où les jalousies, par exemple, au sein d'une fratrie, peuvent avoir des conséquences graves pour l'entreprise. Donc, on ne raconte pas le cœur de l'intimité, quand elle n'a pas de rapport avec, avec l'histoire qui nous intéresse, c'est-à-dire la succession à la tête de l'entreprise. Mais en revanche, évidemment que ce sont des histoires de famille. Donc le privé et le public sont intimement mêlés.
Vous ne pouvez retranscrire que ce que l'on veut bien vous confier. Comment parvenez-vous à entrer justement dans cette intimité-là avec ces dirigeants qui souvent sont quand même avares des histoires, en tout cas celles qui ne les grandissent pas? Comment on collecte ces phrases et ces anecdotes?
Ah, d'abord, dans une famille, il y a plusieurs personnes. Donc, c'est toujours une facilité pour un journaliste, parce que les uns et les autres peuvent avoir envie de parler. Les jalousies sont aussi un bon moteur, il faut bien le dire. Et puis, les hauts cadres de ces entreprises sont de bons observateurs de ce qui se passe dans la famille. D'abord parce que leur propre vie professionnelle en dépend. Donc,
et ils sont là au quotidien.
Donc, on arrive beaucoup en recoupant et en multipliant les entretiens à arriver très proche de la vérité.
Juste pour finir, on a le temps d'une dernière question. Votre deuxième tome, vous le nommez saison 2. On a parfois l'impression de voir des travelling quand vous écrivez, l'hélicoptère qui se pose, l'arrivée de la famille au complet sur une île en Méditerranée ou encore des obsèques grandioses. Est-ce que vous vous servez sciemment des outils du cinéma pour écrire ces papiers-là?
Oui, bien sûr, mais comme on se sert des outils de la littérature. Camper une scène, ça permet de pénétrer à l'intérieur d'une histoire, comme dans les romans et comme dans les films. Donc, bien sûr que ça a modernisé l'écriture journalistique, indéniablement.
Bien, merci beaucoup. Raphaël Baquet, les Midi de Culture, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Vous avez été notre dernière invitée de l'année 2024. Je ne vous souhaite pas encore une bonne année, puisqu'il paraît que ça porte la poisse. Mais je le pense, Succession, secret de famille, coécrit avec Vanessa Schneider, apparu aux éditions Albin Michel. Et on vous retrouve, bien sûr, on vous lit régulièrement dans les colonnes du Monde. Et pour rester encore un peu dans l'univers impitoyable des familles d'argent et de pouvoir, une chanson sortie des archives. Alors attention, écoutez bien les paroles. C'est Bernard Tapie qui nous explique comment réussir sa vie.
Parler à Dieu, comme à ses voisins, dire que ça ira mieux, même quand tout va bien. C'est de voir le soleil au milieu des nuages et devant un avion rêver de voyage. Réussir sa vie, c'est croire en l'instant où tout est magie, où tu es géant. Réussir sa vie, c'est traverser un océan, sans savoir pourquoi ni pour qui, à l'aventure tout simplement. C'est d'être un président, ou bien n'importe qui, et de prendre le temps d'aider un ami. C'est de gagner en bourse comme on jouait au billes et de finir sa course le soir en famille. Réussir sa vie, c'est d'abord choisir, c'est d'avoir envie de tout devenir. Réussir sa vie.
Cette émission a été préparée par Aïssa Touendo, Yoriane Delacroix, Boris Pinot, Zora Vignier, Zoé Coupé, Lise Ripoche et Louis Cosnard. Elle est réalisée par Anna Holweck, avec à la prise de son Marie-Claire Oumabadi.
C'est d'être au carnaval, un des rois de la fête, de croire en son étoile, même les jours de défaite. C'est d'aimer le plaisir, le travail et l'orgueil. C'est de toujours se dire qu'on n'est jamais tout seul. Réussir sa vie.